Bienvenue à tous dans la Pause Fitness, le podcast qui parle évidemment de musculation, de nutrition, mais aussi de style de vie. Donc si ça fait quelque temps que vous écoutez le podcast, je vous invite, si vous avez envie, de mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors une petite évaluation si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast comme iTunes, Spotify ou autre. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode et on se retrouve tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va démarrer le podcast avec le petit sommaire du jour. Le petit sommaire du jour, alors de quoi on va parler ensemble aujourd'hui? On va parler du pain au levain versus le pain classique. Donc on va dire avec de la levure chimique. On va parler du jeûne intermittent pour le soir ou pour le matin. On va parler du régime céto-végétarien. On va parler aussi de ma recette que j'ai mis en ligne ce matin. Enfin, hier matin pour vous qui m'écoutez, parce que là, on est mardi, 8h. Et aussi de l'intimidation à propos du poids qui peut augmenter le risque de consommation de produits, on va dire, illicites ou voire addictifs. Voilà. Avant de démarrer ça, je me suis rendu compte hier que j'étais plutôt d'actualité dans la formation que j'ai mis en ligne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour ceux qui regardent encore la télévision, moi, ça m'arrive en général le dimanche soir. C'est rare, on va dire que ça va être peut-être une fois par mois, voire une fois tous les deux mois. Je regarde le dimanche soir, vous savez, ces émissions qu'il y a sur les chaînes de télé où c'est un peu des émissions sur la société, etc. Donc ça va être quoi? Ça va être les gens qui gagnent pas assez d'argent, les gens qui sont riches, les gens machin, enfin bon voilà. Ils essayent un peu de s'appuyer sur la misère des gens pour faire de l'audimat. Et donc, en regardant ça, je me suis dit que j'étais plutôt d'actualité parce que là, le thème, c'était trop riche pour être aidé ou je sais plus trop quoi. Enfin bon, bref, c'était des gens qui n'avaient pas des gros revenus, mais qui n'avaient pas d'aide, etc. Donc du coup, qui galéraient. Et donc, on voyait un petit peu dans leur quotidien tout un tas d'astuces qu'ils avaient pour essayer d'avoir un petit peu plus d'argent. Et il y avait aussi la partie alimentation. Et dans la partie alimentation, on voyait que, malheureusement, c'était pas forcément tip-top ce qu'ils mangeaient, et notamment, c'était pas forcément des aliments qui coûtaient peu cher. Hein. J'ai vu un petit peu ce qu'il y avait dans les placards, les frigos, les courses, etc. C'est pas vraiment des choses qui coûtaient peu cher. Au contraire, même s'il y en a qui parlaient des promotions, etc., qui essayaient d'avoir en envoyant les coupons, les trucs, ils essayaient de récupérer un petit peu d'argent. Là où je dis que je suis dans le thème, c'est que moi, la formation que j'ai sortie ce week-end, c'était justement sur comment manger sainement quand on a un petit budget pour l'alimentation. Ça veut pas dire que vous avez pas de moyens ou quoi que ce soit, c'est juste que vous essayez de faire vous pouvez avoir envie de faire des économies sur votre budget alimentation, mais vous avez pas envie de manger n'importe comment non plus. Et moi, le but de la formation, c'était justement ça, de donner aux gens tous les réflexes à avoir pour manger sainement. Sans faire ses courses dans un bio, sans manger tous les aliments bio d'ailleurs, de montrer un petit peu quels sont les aliments les plus contaminés et les moins contaminés au niveau des végétaux surtout. Enfin voilà, plein d'astuces comme ça, des concepts et des astuces à mettre en place au quotidien pour justement manger plus sainement sans faire péter son budget. Donc bon, tous ceux que ça intéresse, je vous mets le lien en description pour aller regarder cette formation. Et on démarre tout de suite avec le premier sujet du jour, qui est le pain au levain est-il une source de probiotiques, un article que j'ai vu récemment sur, comme d'habitude, j'aime bien aller sur lanutrition.fr, mais pas que, il y a d'autres sources, mais là il y a lanutrition.fr, qui disait qu'à la différence de la levure industrielle, le levain fait lever la pâte à pain lentement. De plus, les bactéries du levain libèrent des acides organiques, lactiques et acétiques, qui confèrent au pain, au levain, son fameux goût acidulé. Dans la pâte, la baisse du pH permet d'activer un ensemble d'enzymes telles que les phytases qui rendent les minéraux du blé parfaitement biodisponibles et même des protéases capables d'amorcer la dégradation du gluten pour favoriser sa digestion. Ensuite, malheureusement, si le levain est riche en bactéries probiotiques, ce n'est plus le cas du produit fini, car les bactéries sont détruites à la chaleur, explique Daniel Sinscholl dans son nouveau guide des probiotiques, et ce n'est pas une raison pour bouder le pain 100% au levain et sa teneur légèrement, sa saveur légèrement acidulée, appréciée des gastronomes. Cette acidité lui confère en effet un index glycémique bas, inférieur à celui du pain levé à la levure, favorable à la ligne et à la santé. Il a aussi le mérite de pouvoir être conservé au frais quelques jours sans perdre pour autant ses caractéristiques gustatives. Alors index glycémique bas, j'irai pas jusque là. Index glycémique plus bas qu'un pain, ok, mais bas, non, je suis pas d'accord avec ça. Bref, après, ce qu'il faut voir là-dedans, je suis pas en train de vous dire allez-y foncez sur le pain au levain. C'est juste que encore une fois, voyez les conseils, les recommandations, les petites astuces que je vous donne dans les podcasts comme des réflexes de style de vie. C'est-à-dire que vous mangez probablement jamais du pain au quotidien parce que vous faites attention à votre ligne, etc. Donc vous ne mangez pas de pain. Par contre, il se peut que je sais pas, moi, par exemple, vous invitez du monde à la maison, vous avez envie d'acheter du pain parce que vous voulez pas les forcer à manger au contraire, vous voulez pas les forcer à manger correctement, et donc du coup, vous commandez, je sais pas, à votre boulanger un pain ou quoi pour le repas du dimanche midi en famille ou avec vos amis, etc. Eh ben, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, ben on va plutôt aller vers une boulangerie qui propose du pain au levain parce que ça sera toujours mieux que du pain à la levure chimique. En fait, c'est comme ça que je fais des recommandations pour les gens. Et je le précise fortement parce que sur Internet, là, par exemple, par rapport à ce que je viens de dire, il y en a qui pourraient se dire « ils recommandent de manger du pain au levain ». Donc, qu'est-ce qui peut se passer ? La personne va le dire à un pote et de fil en aiguille, ça va être « Ouais, bon, bah, Fitness Smith recommande de manger du pain au levain. Donc, dans sa diète, tous les jours, à tous les repas, on peut y aller, il n'y a pas de problème. » Vous voyez un petit peu la dérive ? C'est pas du tout mon discours. Mon discours, c'est le moment où vous allez manger du pain parce que vous voulez vous faire un petit plaisir, un petit écart, ou même vous allez faire un pique-nique entre amis et tout ça, vous êtes hors du contexte classique de la vie quotidienne. Là, ça peut être intéressant de se tourner vers ce genre de pain parce qu'il est plus intéressant que celui à la levure chimique. Voilà, bon, je m'arrête ici pour cette partie des news sur le pain au levain. Deuxième source, toujours sur le même site, jeûne intermittent, mieux vaut jeûner le soir ou le matin pour perdre du poids. Alors schéma 1, session pour petit déjeuner, 700 calories entre 8h et 9h, déjeuner entre 12h30 et 13h30, dîner entre 7h45 et 18h45, et schéma 2, session en cas du soir déjeuner, donc entre 12h30 et 13h30 dîner, entre 17h45 et 18h45. Un encas de 700 kilocalories entre 22h et 23h. Alors, ce qui se dit, c'est qu'en effet, la prise d'une collation en soirée permettrait de maintenir les stocks de glycogène, forme de stockage des glucides, dans le foie, provoquant une réduction du besoin d'oxydation des lipides pendant le jeûne nocturne. À terme, un tel schéma de repas pourrait expliquer un stockage des graisses plus important et donc une prise de poids malgré les bienfaits escomptés du jeûne, pas très long dans cette étude toutefois de 14 heures environ. Donc, en fait, vous voyez encore une fois que j'en parle depuis longtemps de ces idées de repas. Enfin, en fait, là où il faut voir l'intérêt de cet article, c'est pour venir un petit peu argumenter ce que je vous dis depuis un certain nombre de temps, que les repas du soir riches en glucides ne sont pas bons, que vous soyez en période de perte de graisse, en n'importe quelle période, en fait, c'est moins bon que l'idée que... Enfin, comment dire ? Il y a une croyance populaire qui dit c'est une question de calories sur la journée, c'est une question de quantité de glucides, vous pouvez les manger à n'importe quelle heure, ça n'a pas d'impact. Ce qui est totalement faux, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre, et j'essaye vraiment d'essayer d'éclairer les gens là-dessus. Par rapport à ce que je viens de dire là, les stocks de glycogène étant pleins, ça va décourager l'utilisation des lipides stockés à des fins oxydatives, on va dire, enfin à l'oxydation des graisses. Pourquoi ? Parce que les stocks de glycogène sont pas renouvelés, mais on va dire qu'il y a eu un apport en glycogène. Donc il y a eu un restockage en glycogène. Donc du coup, c'est pas intéressant. Alors que quand c'est pris le matin, l'avantage du matin, ça veut dire que logiquement, on est censé être un peu en mouvement dans la journée. Donc on va encourager l'utilisation de ce glycogène, donc potentiellement on arrivera en fin de journée avec un stock de glycogène un petit peu plus bas. Et aller se coucher en refaisant le plein, je trouve que c'est une mauvaise idée, surtout si on a du mal à perdre du poids, si on a du mal à rester mince, ou si tout simplement on prend du poids facilement, même quand on est en prise de masse. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer aux gens qu'il faut pas croire que le corps est juste une machine comme une bagnole, qu'on peut faire le plein d'essence et le vider, et le faire le plein et le vider, quelle que soit l'heure où on fait le plein de la bagnole, ça change pas grand chose. Alors que là, la réalité, c'est que le corps, lui, il fait une différence entre une prise alimentaire le matin et une prise alimentaire en fin de journée. En fait, ce qui fait la différence, c'est les périodes de veille, donc d'éveil, on va dire, et les périodes de sommeil. Et si on comprend pas ça, malheureusement, des personnes peuvent rester longtemps à avoir une stratégie qui est la suivante, qui est très fréquente, notamment en France, c'est que le matin, on se réveille un peu en speed, on prend pas de petit déjeuner ou alors on prend vraiment quelque chose de très léger sur le pouce. Le midi, on mange entre deux rendez-vous, on mange rapidos. Et le soir, quand on est peinard et le stress redescend un petit peu, c'est là où on fait le gros repas. Et en fait, c'est une mauvaise stratégie, ça, parce qu'on va apporter l'essentiel de son, on va dire, capital énergétique sur le repas du soir avant d'aller se coucher. Donc en fait, c'est juste comme si on faisait le plein, un gros plein après une course, quoi. Enfin, je veux dire, le but, c'est plutôt de recharger avant de faire l'effort et de après l'effort, entre guillemets. Donc l'effort représente la journée, hein, vous m'avez compris. Donc après la journée de vous n'êtes pas censé arriver en fin de journée complètement vide et c'est le moment de recharger. En fait, le but, c'est d'avoir des réserves qui sont plus ou moins maintenues pour maintenir vos activités et ensuite, quand vous allez avoir des activités de type dormir, ça sert à rien de faire le plein comme si vous alliez faire un marathon. Enfin, moi, ça me semble logique, mais apparemment, ça semble pas logique pour beaucoup de personnes qui essayent de vous rassurer en vous disant, vous inquiétez pas, vous pouvez manger n'importe quoi le soir à partir du moment où ça rentre dans vos macros. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et de toute façon, il y a qu'à regarder, la réalité du terrain montre que c'est pas le cas, sauf pour quelques personnes qui ont des bonnes capacités à rester sèches. Ou alors des personnes qui vont vous dire de le faire, mais qui n'ont pas du tout un physique qui correspond à vos attentes ou qui n'ont plus un physique qui correspond à vos attentes aujourd'hui. Bon voilà, bref. En tout cas, on passe à l'autre sujet qui est le régime céto-végétarien. Donc, alors, un petit rappel, le régime végétarien étant grandement à la mode, le régime cétogène étant grandement à la mode, ben forcément, il y en a qui ont fait comme dans Dragon Ball Z, ils ont pris les deux, ils ont fait une fusion et ils se sont dit, tiens, on va essayer de faire le céto-végé, ce qui sera en fait un régime qui s'adaptera à la fois aux personnes qui veulent suivre une diète cétogène et à la fois aux personnes qui sont végétariennes. Alors, je rappelle que les végétariens ne sont pas des végétaliens. Donc, les végétariens consomment encore des œufs, du fromage, des produits laitiers, mais évitent tout ce qui est d'origine animale directe, c'est-à-dire la chair de l'animal, le poisson, la viande, voilà. Mais par contre, tout ce qui va être les produits dérivés, le miel, les œufs et tout, ils peuvent en consommer. Bref. Et là, en fait, ce que j'avais noté dans cet article tiré du bouquin de Magali Walkowicz, alors le nom est un peu, j'ai du mal à le prononcer, elle m'excusera si elle écoute ce podcast. Pour suivre ce régime, vous devez limiter votre consommation quotidienne de glucides. Alors, Magali propose 3 seuils selon le mode de vie et les objectifs à atteindre. 20 à 30 grammes de glucides par jour pour un objectif minceur. 30 à 50 grammes par jour pour traiter les maladies pour lesquelles le régime cétogène est généralement prescrit et jusqu'à 80 à 100 grammes de glucides par jour pour les sportifs en particulier. Donc en fait, l'idée du régime céto-végétarien, c'est tout simplement de consommer des graisses végétales, donc on va prendre l'huile de coco, toutes les graisses en fait qui existent, l'huile d'olive, de colza, enfin bon, toutes ces choses-là. Ce qui ne diffère pas, c'est qu'en fait les végétaux qu'on va consommer sont les mêmes dans les deux cas, hein, que ce soit cétogène, on va dire omnivore et cétogène végétarien. Et ce qui va différer après, c'est les protéines. Donc les protéines, ça va être des œufs. Moi, je recommande des œufs majoritairement, mais eux, ils parlent du tofu, de quoi ils parlent. Alors attendez, je vais vous parler des sources de protéines rapidement. Je les ai pas notées, mais je vais vous les retrouver rapidement. Ils parlent du tempeh, tofu, chétane, j'aime bien dire, algues, soja, graines germées. Voilà. Et pour les oméga 3, pour trouver des oméga 3, ils vont parler de l'huile végétale de coco, de noix, de lin, de colza et de cameline. Alors, faut savoir une chose, c'est que ces huiles-là, c'est précurseurs d'un acide gras qui s'appelle ALA, mais pas du tout, c'est pas des oméga 3 EPA DHA direct comme on pourrait retrouver dans le dans les poissons et les crustacés, hein. Donc il faut quand même faire un petit peu la différence. Et après il parle des œufs, des produits laitiers, des légumes, des fruits et des noix et des graines. Alors bon, bref, légumes et fruits, il faut faire attention quand même. En régime cétogène, on n'est pas forcément on ne consomme pas beaucoup de fruits. Pour arriver à 20 à 30 grammes de glucides par jour, je vous garantis qu'avec des légumes, on peut y arriver assez rapidement si on a un appétit un peu féroce, parce qu'il va falloir combler sa faim, et donc en utilisant des noix, des graines et des légumes, on peut rapidement arriver à ces 20-30 grammes de glucides par jour. Je pense que les fruits, c'est plus pour la personne qui est sportive ou très active, qui peut monter jusqu'à 80 ou 100 grammes de glucides par jour. Cette personne-là, ouais, elle pourra profiter des fruits un petit peu plus. Après, pareil pour les produits laitiers, moi je recommanderais plutôt de rester sur du fromage et plutôt éviter les produits laitiers de type yaourt, fromage blanc et tout ça. Après, c'est personnel, moi je donne les recommandations que moi je m'appliquerai, mais pas du tout les recommandations. Il y a des personnes qui, voilà, ils se disent non mais moi j'aime bien mes yaourts, etc. Faites votre vie, moi il n'y a pas de problème, c'est juste voilà, je parle en tant que passionné consommateur, pratiquant. Je suis pas juste quelqu'un qui vous parle comme ça et qui dans votre dos je boufferai des plats préparés toute l'année, c'est pas le cas. Moi j'ai quand même un style de vie qui est fortement orienté, on va dire, alimentation saine, fitness, etc. Enfin, c'est pas fortement orienté, c'est qu'il est comme ça depuis des années et qu'aujourd'hui ça me serait compliqué de faire les choses différemment. Donc c'est là que ça devient intéressant, c'est que beaucoup de personnes pensent que c'est difficile, mais peut-être aujourd'hui, mais en fait aujourd'hui pour moi ce qui est difficile c'est de faire autrement. Donc il faut arrêter de croire au mental, etc., des personnes qui tiennent depuis des années. En fait le mental c'est au début, après c'est terminé. Bref, là y en a qui vont écouter, qui vont se dire non mais dis pas ça, après je vais perdre l'admiration auprès des gens qui me suivent, etc. Mais non, la réalité c'est que c'est difficile juste au début, après quand c'est des habitudes ça devient facile, et justement mon travail c'est de vous montrer que ça peut devenir facile si vous adoptez les bonnes pratiques. Bref, en parlant de bonnes pratiques, super transition, je vais vous donner une petite recette qui ne rentre pas dans le cadre du cétogène, qui ne rentre pas dans le cadre des diètes, on va dire, comme je viens de citer là, de la nutrition.fr. Là, c'est juste une petite recette pour des personnes qui, comme moi, ponctuellement dans la semaine, veulent se faire un petit repas sans poisson, sans viande, sans œufs. Et donc, du coup, c'est une recette de falafel protéiné vegan. Donc, pas besoin de rajouter ces mots-là. En fait, j'ai rajouté ces mots-là juste pour l'algorithme Google, pour qu'il puisse un petit peu me répertorier. Mais la réalité veut que des falafels soient d'entrée de jeu vegan et d'entrée de jeu protéiné, puisque c'est fait à base de pois chiches et les pois chiches sont une source végétale de protéines qui n'est pas complète, on le sait, mais bon, ça, voilà, si c'est un repas par semaine, ça sauve les meubles. Donc la recette est simple. Les ingrédients, 500 grammes de pois chiches cuits, donc soit vous les prenez en boîte, soit vous les faites cuire en fonction de vos capacités, budget, tendre, etc. Un demi-oignon blanc, 2 gousses d'ail, 1 cuillère à café de cumin, 1 cuillère à café de coriandre, 1 cuillère à café de persil, 1 cuillère à café de paprika. Donc le but, en fait, vous coupez tout ça en petits morceaux, donc vous rincez vos pois chiches, vous coupez l'ail et l'oignon en petits morceaux, vous mettez toutes les cuillères à café de toutes les aromates et les épices que je viens de citer dans un bol, et vous mixez ça avec un mixeur à main, vous savez, là, pour faire les soupes, etc., ou un presse-purée, enfin quelque chose qui pourrait écraser tout ça, de manière à faire une espèce de pâte, assez collante d'ailleurs, bien mélangé, etc. Et ce que vous faites, vous mettez aussi un tout petit peu, alors c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, et vous mélangez bien tout ça, vous faites des boules à la main, donc vous les roulez avec amour dans les mains et pas sous les aisselles, comme dirait, je sais plus qui là dans le Père Noël est une ordure. Et vous placez ça sur votre plaque de cuisson. Alors mettez un petit papier cuisson pour pas que ça attache. Vous mettez ces boulettes là, vous les répartissez de taille égale sur la plaque de cuisson. Laissez cuire 15 minutes à 190 degrés en surveillant. Le but c'est que ça soit un petit peu sec à l'extérieur, mais encore bien moelleux à l'intérieur pour pas tout cramer non plus. Et vous avez plus qu'à consommer ça. Moi j'avais consommé ça avec un demi avocat, de la salade et une petite vinaigrette. Donc l'avantage de ça, c'est que vous allez avoir votre dose de protéines si vous consommez suffisamment. Moi j'avais mis les macros, 22 grammes de glucides, 47 de lipides, 16 calories. Non, 16. Alors attendez, j'ai fait les choses à l'envers. 22 grammes de protéines, 47 grammes de glucides, 16 grammes de lipides et 450 kilocalories, index glycémique bas, charge glycémique modérée. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir une petite recette sympa pour vous faire de temps en temps comme moi un petit plat vegan tout en restant un peu dans les clous, et puis de ça vous permet aussi de changer votre diète. Alors là, je vous l'ai montré comme ça pour une personne en prise de masse qui voudrait encore augmenter les glucides. Vous pouvez vous servir de ces boulettes par exemple avec je sais pas moi un petit plat de pâtes de pois chiches ou de choses comme ça au moins vous boostez encore. Enfin même, vous pouvez changer, c'est-à-dire que vous pouvez prendre des pâtes d'une autre légumineuse. Donc je sais pas, de pois cassés, je sais plus, de lentilles corail aussi, comme ça au moins ça vous fait des pâtes de lentilles corail avec des petites boulettes véganes comme ça en plus. Et vous faites une petite sauce tomate maison avec, ça peut vous faire un plat un peu à l'italienne sympa tout en étant en restant dans les clous si vous êtes végane ou que vous voulez faire un repas végane, mais en ayant quand même un bon score au niveau des protéines. Voilà. Bon, je m'arrête ici pour cette petite recette. De toute façon, la recette, je vous l'ai citée là, mais vous pouvez la trouver sur le site. Vous avez même maintenant, j'ai mis le petit onglet pour pouvoir la télécharger, l'imprimer. Comme ça, ça vous permet de vous faire votre petit livre de cuisine, Made in Fitness Smith. Voilà. Dernier article de cet épisode, l'intimidation à propos du poids peut augmenter le risque de consommation de drogue. Alors plus de la moitié, alors ils ont fait des études auprès de 1600 ados, et plus de la moitié, donc 57% ont déclaré des taquineries liées au poids, dont 76% des filles en surpoids, 71% des garçons en surpoids, donc on voit que c'est quasiment kiff-kiff, donc ça se passe chez les deux. 52% des filles qui n'étaient pas en surpoids et 43% des garçons qui n'étaient pas en surpoids. Les taquineries fréquentes concernant le poids étaient associées à des niveaux plus élevés de consommation globale d'alcool, de beuverie et de marijuana, bien que l'étude ne puisse pas prouver un lien de cause à effet. Bon, moi je suis assez d'accord avec ça, parce qu'en fait il faut voir les choses aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que forcément peut-être que des personnes qui subissent une forme d'oppression entre guillemets de taquinerie sur le poids, alors tous ceux qui sont en surpoids ou qui l'ont été dans leur adolescence ou enfance ont certainement connu la méchanceté des enfants, c'est comme ça, c'est classique, il faut s'armer contre ça, ça tue personne. Je l'ai subi, j'ai réussi à en venir à bout parce que voilà, à un moment donné, faut prendre ses responsabilités. Malheureusement, quand on est adolescent ou quand on est enfant, on est innocent. Et si c'est vos enfants qui en subissaient les conséquences, je comprends fortement qu'à votre place, moi aussi, j'aurais envie de tout casser. Bref, juste pour dire que il faut pas non plus s'alarmer. Les enfants sont beaucoup plus primitifs que nous dans leur comportement, et s'ils ont envie de se moquer, ils vont se moquer dans tous les cas. Mais moi, ce que j'aimerais dire aussi par rapport à ça, c'est que les trois choses, alors les beuveries, alcool et marijuana, c'est aussi trois choses indirectement ou directement qui peuvent encourager au surpoids. C'est ça qui est intéressant, parce que l'alcool fait prendre du poids, les beuveries, donc ça veut dire quoi, des soirées arrosées, je sais pas, bière, etc., où on va bouffer des chips, tout ça, ça fait prendre du poids, et la marijuana, donc consommer, fumer de la beuh et tout, outre que ce soit illégal en France, parce que là, ce que je lis, ça vient des États-Unis, donc peut-être dans un état où c'est légal. La marijuana a tendance à fortement ouvrir l'appétit chez pas mal de personnes, donc du coup, à encourager la consommation d'aliments. Donc du coup, potentiellement, peut conduire au surpoids aussi si chez les personnes qui le consomment, ça active justement ce côté augmentation de l'appétit. Donc on voit que c'est un peu trompé. Est-ce que les personnes qui sont en surpoids sont pas des personnes qui font ça parce qu'elles font ça, ou est-ce que les personnes qui sont en surpoids parce qu'elles subissent des oppressions, etc. Donc moi, je pense que voilà, quand un enfant est en surpoids, je pense pas qu'il consomme de l'alcool et tout ça. Donc réellement, il peut aussi combattre son stress et son état mental négatif par l'alimentation parce que ça donne du plaisir. Mais c'est pas la seule raison. Et je pense que ça passe par la connaissance, ça passe par l'éducation, ça passe par l'encouragement pour les enfants d'essayer d'être un peu plus actifs et moins devant leurs écrans. Enfin bon, bref, je pense pas que ça soit... On peut pas aller incriminer les enfants de se moquer des autres, parce que dans tous les cas, on pourra jamais changer ça. Dans la cour d'école, il se passera toujours ce qui se passe encore depuis des années et qui se passera encore des années et des années plus tard. Et c'est aussi, malheureusement, et c'est difficile à dire, mais c'est aussi comme ça que les enfants, pardon pour le petit message que je viens de recevoir, c'est aussi comme ça que les enfants se construisent une forme de caractère en sortant un peu du cocon familial, où tout est beau, tout est doré, enfin, on va dire pour la majorité des gens, mais pour certains c'est pas tout beau et tout doré, de sortir un petit peu de ce confort de la famille et de se heurter un petit peu à la réalité du monde qui va être des conflits, qui va être ben voilà des menaces, etc., de pouvoir s'en défendre et de se développer un petit peu par soi-même et de pas s'appuyer toujours sur des lois et sur des la morale, on va dire, pour se sentir bien et pour dire c'est pas bien, t'as pas le droit de me dire ça, c'est illégal, etc. Non, il y a un moment donné, faut un petit peu s'armer contre ça et prendre le contrôle. Et peut-être que, ben justement, comme j'en parlais dans un article assez récemment, le développement physique, donc c'est d'être capable de faire quelque chose de son corps, d'être capable de prendre des responsabilités. Alors pas pour les enfants, je le comprends, mais pour un adolescent, ça peut être une bonne thérapie en fait, de faire gonfler l'estime de soi par le développement de ses propres capacités. Voilà. Bon bref, je m'arrête ici parce que je sais qu'il y a des parents qui m'écoutent et ça peut résonner en eux ce que je suis en train de dire. Il y a des ados qui m'écoutent et ça peut aussi résonner ce que je suis en train de dire. Je le sais puisque j'ai souvent en consultation des personnes dans des cas de figure similaires. Et c'est vrai qu'on en vient souvent à la conclusion que ça passe beaucoup, au lieu de vouloir changer les autres, ça passe beaucoup par un travail personnel pour améliorer son quotidien et non pas par l'attente des modifications de l'extérieur. Et donc, je vais m'arrêter ici pour cet épisode. Allez voir les liens, tout ce que j'ai cité là dans le podcast, notamment la formation sur mieux manger avec un petit budget qui pourrait aller très bien justement pour les ados, les jeunes adultes qui démarrent une activité, pour les personnes qui traversent une période difficile actuellement au niveau des finances mais qui n'ont pas envie de tout abandonner. Parce que sachez une chose, c'est que en règle générale, quand des personnes commencent à abandonner le sport, ils vont avoir tendance à abandonner aussi la bonne nutrition, parce que ça va de pair. Et vice-versa, quand une personne commence à manger mal, remanger mal, reprendre des mauvaises habitudes, elle va avoir tendance également à arrêter le sport. Donc le but que j'ai moi, c'est de vous fournir des outils pour continuer, quelles que soient les tempêtes que vous traversez, à maintenir ce style de vie, parce que je vous garantis que ce style de vie peut vous sauver la vie dans des moments hyper difficiles. Et là, c'est pas de la théorie que je vous balance comme ça, c'est voilà, je vous le dis, si vous arrivez à maintenir ce style de vie, ça pourra faire une raison au quotidien de vous lever dans des périodes difficiles, mais également une raison de vous lever quand tout va bien et que vous avez envie de d'être en meilleure forme. Donc, dites-vous bien une chose, c'est que quand vous êtes en méforme au niveau financier, au niveau, je sais pas, relationnel, etc., ça peut vous maintenir à flot, vous maintenir en forme, on va dire, physiquement et au niveau de la santé, bah, au niveau de l'alimentation et tout. Et quand tout va bien, bah, ça vous permet de progresser sur le plan physique. Voilà, je m'arrête ici pour cet épisode. Allez voir les liens en description. On se retrouve très rapidement pour un autre podcast. Et très bonne semaine à tous. Salut! Si vous avez aimé ce podcast, laissez-moi vous montrer un petit peu ce que je fais dans l'espace VIP. Donc, je vous ai mis un petit lien pour aller continuer à écouter comme ça des audios qui sont réservés aux personnes, on va dire, du petit cercle VIP. C'est des contenus que vous pouvez écouter aussi bien en audio ou en vidéo. Hein. Ça, c'est à vous de choisir comment vous souhaitez consommer le contenu. Mais il y a également des programmes d'entraînement. Il y a également des plans diététiques, etc. Et c'est justement une extension du podcast volontairement pour justement les personnes qui veulent pas juste consommer de l'actu, des petits sujets légers, mais plutôt rentrer dans le vif de certaines problématiques pour progresser et pour un petit peu en fait devenir de plus en plus indépendant vis-à-vis des coachs, etc., etc. Donc vous avez un petit lien directement et si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder le contenu. Voilà.